Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Vous vous souvenez sans doute, mes bien chers frères, des paroles énigmatiques de notre Seigneur à Nicodème. Nicodème, c'est ce vieil homme, enfin on le présente vieux, l'Écriture ne nous en dit rien, mais c'est du moins ce Sanhédrite, ce sage d'Israël, issu de la caste des pharisiens, qui vient trouver Jésus de nuit parce qu'il n'ose pas trop le faire devant ses confrères et qu'il a été très touché par la personne de notre Seigneur, et il vient s'entretenir avec lui. Que lui dit Jésus d'emblée? Trêve de politesse pour Jésus, d'emblée lui dit « Nul ne peut voir le royaume de Dieu à moins de naître d'en haut ». Et Nicodème, avec toute l'ironie qu'on connaît au maître juif, objecte à Jésus, feignant de prendre au pied de la lettre l'expression du Christ « naître d'en haut, naître de nouveau ». Comment un homme peut-il naître une fois qu'il est vieux? Peut-il entrer une deuxième fois dans le sein de sa mère et naître de nouveau? Ce bon Nicodème, qui se moquait gentiment de Jésus, ne savait pas que sa proposition contenait quelque chose de très juste. Il faut entrer une deuxième fois dans le sein de sa mère. Bien sûr, il est hors de question pour l'être humain de rapetisser et de se retrouver physiquement dans le sein de sa mère. Ça n'aurait évidemment aucun sens et ce serait tout à fait contraire à la loi de la croissance que Dieu a voulu pour ses créatures. Une fois qu'on est sorti du ventre de sa mère, on n'y retournera jamais. En cela, les paroles de Nicodème sont parfaitement vaines et elles sont ironiques. Mais ce qu'elles contiennent de vrai, c'est qu'il faut pour l'être humain qui veut accéder au royaume entrer dans le sein d'une mère une deuxième fois. Cette mère, bien sûr, vous voyez très bien où je veux en venir, il s'agit de la Vierge Marie, à qui Jésus confie Saint Jean au pied de la croix. Que veut le Christ lorsqu'il confie à sa mère Saint Jean au pied de la croix? Que non seulement Saint Jean, mais aussi tout chrétien, entre avec Marie dans une relation filiale, une relation filiale très étroite. Or, existe-t-il entre une mère et son enfant relation filiale plus étroite que cette relation intra-utérine, lorsque le petit est encore blotti dans les entrailles de sa mère pour 9 mois? Si donc Jésus veut, avec la Vierge Marie, que nous entretenions la relation la plus étroite qui soit, c'est qu'il veut que nous nous trouvions comme dans le sein de sa mère, puisque telle est la relation la plus étroite entre une mère et son enfant. C'est bien ce que présente la vision grandiose du chapitre 12e de l'Apocalypse. J'en ai parlé la semaine dernière, vous trouverez peut-être que tout cela est très redondant, parce qu'effectivement, je ne fais aujourd'hui qu'accentuer, qu'approfondir ce que nous avons vu la semaine dernière. Je vous dirai pourquoi tout à l'heure. Dans le chapitre 12e de l'Apocalypse, nous avons cette vision grandiose et splendide à la fois. Vous voyez, les mots se bousculent tellement cette vision est belle. On voit la Vierge Marie qui est couronnée d'étoiles, la lune sous les pas et nimbée du soleil. Et que fait-elle cette belle Vierge? Elle ne se tient pas là le sourire aux lèvres et triomphante, ce qu'elle pourrait faire. Elle aurait tout droit de le faire parce qu'elle a bien servi sur terre. Non, elle gémit dans les douleurs de l'enfantement. Évidemment, celui qu'elle est en train de mettre au monde, c'est, et toute la tradition le reconnaît, en premier lieu, son divin Fils, qui est sans cesse en gestation, si l'on veut, jusqu'à ce que son règne enfin s'étende à la terre entière, le jour de son retour dans la gloire, de la parousie donc. Mais cet enfant que met au monde la Vierge Marie, c'est également chacun d'entre nous, mes frères. Vous voyez donc qu'effectivement, dans le Nouveau Testament, dans l'Écriture même, on nous dit que nous devons être dans les entrailles de Marie pour pouvoir en sortir un beau jour. On dit que le cœur de l'enfant in utero bat en harmonie avec le cœur de sa mère. Je ne sais pas s'il y a parmi vous des personnes aptes à m'expliquer cela. Peut-être que ce n'est qu'une fable, peu importe. Je trouve cela très beau, qu'au moins le symbole soit communément repris, et très beau qu'on raconte cela parmi les incultes dont je suis en matière de médecine. Voilà, parce que s'il y a unisson entre le cœur de la mère et de l'enfant, alors la consécration au cœur immaculé de Marie que notre Saint-Père le Pape fait aujourd'hui au nom de l'Église et qu'il demande à chaque évêque, à chaque prêtre et à chaque fidèle de faire à sa place, eh bien, cette consécration au cœur de Marie prend tout son sens. Se consacrer personnellement au cœur immaculé de la Sainte Vierge, ce n'est pas se contenter d'en regarder le caractère grandiose. Ce n'est pas se contenter d'en vanter les mérites, de dire qu'il est beau ce cœur, il a souffert avec Jésus, il s'est donné pour nous, vraiment qu'elle est belle. Non, c'est plus que cela. C'est prendre la Vierge pour mère, jusqu'au point d'entrer, en quelque sorte, jusque dans son sein. et comme un petit enfant dans le sein de sa mère, avoir notre cœur enfin qui bat à l'unisson avec le cœur de la Vierge Immaculée. Vous voyez donc les implications très profondes de cette consécration que le pape veut pour nous à la suite de ses prédécesseurs, depuis que Notre-Dame a demandé à Fatima la consécration du monde, et particulièrement de la Russie. Le pape le fera-t-il enfin aujourd'hui ? Bon. Mais enfin, il consacre l'ensemble du genre humain pour que chaque personne humaine puisse, dans le sein de Marie, avoir son cœur qui bat en harmonie avec le cœur immaculé. Il faut réaliser combien cette intimité avec le cœur immaculé de Marie, le fait d'avoir le cœur qui bat à l'unisson avec celui de la Vierge Sainte, est bénéfique pour nous. Bénéfique pour nous parce que ça nous permet d'entrer dans une relation plus étroite avec Jésus. Bénéfique pour nous parce que cela nous permet d'entrer en relation avec autrui, tout simplement. De mieux vivre notre relation à nos frères. Dans notre relation avec Jésus, cette consécration au cœur immaculé est fondamentale parce que lorsque l'on pénètre, lorsque l'on est à l'unisson avec le cœur immaculé, on est nécessairement à l'unisson avec le cœur de Jésus, avec le Sacré-Cœur. Pas seulement parce que la Vierge Marie a des liens biologiques avec son Fils. Pas seulement parce que la Vierge Marie a une connivence d'amour avec son Fils, qu'elle épouse les volontés du cœur de son Fils. Non, plus étroitement encore, nous avons, en vertu de ce mystère de la transfixion, le cœur de Marie qui se fond, j'allais dire physiquement, c'est mystiquement, mais réellement, qui se fond avec le cœur de son Fils. Vous savez peut-être que les grands héros du Sacré-Cœur qui étaient Saint Jean-Eudes et qui étaient Louis-Marie Grignon de Montfort notamment, ont eu le culot, ou l'audace au moins, de parler du cœur unique de Jésus-Marie. Il fallait oser tout de même. Et évidemment, la réforme a immédiatement chicané, parce qu'enfin, mêler le cœur d'un dieu au cœur d'une femme, c'était idolâtrer ce qui n'est qu'une créature, la Vierge Mère, bon... Peu importe, moi je me fie à ces intuitions magnifiques des grands docteurs catholiques qui nous disent voilà, qu'il n'y a qu'un cœur uni. Donc lorsque nous sommes à l'unisson avec le cœur de Marie, c'est en fait avec le cœur de Jésus-Marie que nous sommes à l'unisson. Il y a parfois dans notre vie spirituelle comme un décalage, comme un hiatus, comme une opposition parfois entre l'adoration que nous voulons bien rendre au Christ Seigneur et en même temps la dévotion à la Vierge Marie. Soit parce que nous ne nous sentons pas très à l'aise avec la Vierge Marie, cette petite créature, très belle sans doute, mais qui n'est qu'une créature. Nous n'avons pas trop de temps à perdre, il vaut mieux immédiatement se jeter dans les bras de son Fils. Et voilà, si vraiment nous n'avons que 10 minutes à consacrer à la prière, alors vous comprendrez bien, Vierge Marie, que nous ne les passions qu'à parler avec votre Fils, avec son Père et le Saint-Esprit, parce qu'eux, ils sont Dieu. Je crois que c'est très mal comprendre ce que Dieu veut pour nous. Puisque Saint Louis-Marie Grignon de Montfort nous disait que l'on ne va à Jésus que par Marie. Et vu ce que je viens de vous expliquer, c'est-à-dire le fait que le cœur de Marie et le cœur de Jésus étaient intimement unis jusqu'à ne faire qu'un, nous devons passer par Marie pour accéder à son Fils. Nous n'avons pas à diviser, nous ne perdons pas une minute en vénérant le cœur immaculé de Marie. Parce qu'en vénérant le cœur immaculé de Marie, nous vénérons également le Sacré-Cœur, puisqu'ils ne sont qu'un. Je vous disais tout à l'heure que, dans notre relation aux autres également, cette consécration au cœur immaculé de Marie, le fait que notre cœur batte à l'unisson avec celui de notre Mère du Ciel, avait une grande importance. Effectivement, la Vierge Marie est la garde du cœur. Elle est voulue par Dieu comme notre garde du cœur. Je trouve ce mot magnifique. Je vous ai à plusieurs reprises, je crois, dit que le rôle dévolu par Dieu à chaque femme était depuis les origines celui de garder le cœur de l'homme, d'être plus largement la gardienne de l'homme. Ou, peut-être l'expression sera-t-elle un peu cucu, mais je la trouve très vraie, celle de médiatrice de toute l'humanité, mais singulièrement de l'homme, vire masculin, dans l'ordre de l'amour. C'est ce que symbolise le fait que, dans le récit de la création, Ève soit tirée de la côte d'Adam. Car la côte, c'est une partie de notre corps qui est au-dessus du cœur. Du moins, une partie des côtes sont au-dessus du cœur et protègent le cœur. Vous voyez, le cœur de l'homme dont elle est issue. C'est du moins ce que la tradition a toujours retenu comme interprétation. Que la femme soit gardienne du cœur de l'homme, Ça signifie, parmi d'autres choses, que Dieu lui confie la charge d'apprendre à l'homme à aimer. Comment aimer et à aimer mieux? Parce que tout de même, il ne faut pas se dire que l'homme est un égoïste macho insupportable, n'exagérons rien, il n'est pas sorti tel des mains de Dieu, pas plus que la femme n'est sortie absolument parfaite des mains de Dieu, elle était belle et bonne, mais elle demandait encore à s'accomplir. Voilà que l'homme, et Dieu l'a fait tel pour le coup, est tout de même égocentré. Encore une fois, je n'ai pas dit égoïste, vaniteux, je dis égocentré. Il est centré sur lui. Il est plus enclin à mettre la création au service de son projet personnel. Telle est sa force, telle est sa qualité du reste. Il appréhende la réalité comme relative à lui, d'où le fait que l'homme plus facilement puisse soumettre à l'étude scientifique ou simplement à l'exploitation matérielle la création. C'est son talent, et ce talent est nécessaire à toute l'humanité. Mais évidemment, si cela est très bien quand il s'agit des réalités matérielles ou des animaux, parce qu'il est chef de la création, évidemment, il peut y avoir quelques petits problèmes lorsqu'il s'agit de personnes humaines. Lorsque l'homme, et il a cette tendance foncière, égocentré qu'il est, et cela est bon, vis-à-vis des personnes, lorsqu'il se sert des personnes pour les mettre au service de son projet. C'est là que le bât blesse, et c'est là qu'intervient la femme, qui, plus altérocentrée, le terme est un peu étrange, il ne s'agit pas du tout d'altérophilie, rassurez-vous, plus altérocentrée, c'est-à-dire, en fait, tournée vers les autres, terme un peu pédant, plus disposée naturellement à se donner radicalement, parce que notamment tout en elle, tout en vous, mesdemoiselles, mesdames, est fait pour cela. Vous êtes totalement centrés autour de la vie, puisque vous avez la capacité d'abriter en votre sein une petite vie à laquelle vous donnez tout. Vous voyez, il y a donc chez la femme cette capacité altérocentrée qui vient à la rencontre de l'homme et lui apprend à entrer dans cette dynamique altérocentrée. En vertu de ce talent naturel qu'elle a reçu de Dieu, la femme doit, sous cet angle, éduquer l'homme pour lui permettre d'être ce qu'il est. L'homme est, comme toute personne humaine, un être de relation. Et qui dit relation, dit don de soi. Puisque l'homme n'est pas foncièrement ordonné au don de soi, c'est à la femme de l'y introduire. Vous voyez que le bon Dieu fait bien les choses tout de même lorsqu'il veut cette différence sexuée dès l'origine. Mais depuis le péché originel, mesdemoiselles, mesdames, vous rechignez à jouer ce rôle auprès de l'homme. D'aide semblable à l'homme que Dieu avait prévu dans la femme, il vous semble bien souvent que vous n'êtes qu'une boniche, corvéable à merci. Voyez, inférieure à l'homme et relative à l'homme. Alors vous entrez bien souvent en compétition avec l'homme, soucieuse de vous affranchir, je dis vous en général, ce n'est évidemment pas aux saintes, aux paroissiennes d'ici que je m'adresse, mais à ces femmes du dehors qui ne sont semblables à vous que parce qu'elles sont femmes également, mais elles sont femmes également, c'est mieux. Voilà, vous, ces femmes-là entrent en compétition avec l'homme, soucieuses de s'affranchir de la soumission dans laquelle elle croit à tort être réduite par cette fonction de garde du cœur. C'est là précisément qu'intervient le rôle de la Vierge Marie. Elle est la femme parfaite, exempte, de tout péché originel, de toute jalousie. Elle porte à la perfection ce talent typiquement féminin de garde du cœur, d'éducatrice du cœur. C'est ainsi qu'on l'appelle la nouvelle Ève. Se mettre à l'école du cœur immaculé de Marie lorsqu'on est une femme, c'est contempler ce que vous devriez être, vous les femmes. Ou plutôt ce que tout à la fois vous avez la capacité d'être parce que vous êtes femme et ce que vous devez devenir en plénitude parce que vous êtes blessé par le péché, que vous vous êtes recroquevillé sur vous, que vous avez refusé cette fonction que Dieu vous avait donnée de médiatrice, d'éducatrice. Une femme profondément mariale, une mère, une épouse, une sœur qui vit unie au cœur immaculé de Marie, vous en avez certainement déjà rencontré, je pense. Eh bien, ce qui frappe chez toutes, absolument toutes, c'est leur talent d'éducatrice. C'est leur patience par rapport aux hommes notamment, mais par rapport à l'ensemble de la race humaine. Et pour ma part, j'avoue devoir avoir un lourd tribut à l'égard de maman, à l'égard de mes sœurs. Alors, vous me direz, vous n'êtes pas du tout parfait, on sent bien que votre éducation n'est pas terminée. Oui, effectivement, j'oppose des résistances très mâles, très masculines à ces talents, pour autant que mes sœurs et maman m'ont opposé, cette éducation que j'ai reçue de maman et de mes sœurs, mais je dois encore plus, peut-être, à des religieuses. Peut-être avez-vous déjà vu des religieuses qui sont encore plus configurées à la Vierge Marie. Pardon pour vous qui êtes des mères et de bonnes mères, mais la Vierge Marie et les religieuses qui lui sont configurées ont une maternité, une capacité d'éducation qui, je trouve, est bien souvent plus fine. C'est ainsi. Dieu fait des merveilles, il appelle une telle à se consacrer totalement à lui, et par la virginité qui est la sienne, par des dons totalement dont Dieu seul a l'initiative, cette pauvre petite religieuse n'en est pas à l'origine, bien sûr, elle n'a pas l'orgueil de le penser. Dieu veut faire des merveilles et veut rendre présents sur terre des icônes de la Vierge Immaculée, de ce cœur immaculé qui est éducateur dans l'ordre de l'amour. Quant à vous, messieurs, et quant à moi, pour nous les hommes donc, se mettre à l'école de la Vierge Immaculée, du cœur immaculé de Marie, en se consacrant aujourd'hui au cœur immaculé de Marie, c'est nous laisser éduquer enfin au plan de l'amour, notamment pour que s'estompe notre égoïsme. Notre attitude si facilement captative, consommatrice à l'égard d'autrui, à l'égard des femmes, bien sûr, mais à l'égard de tout un chacun en réalité. Lorsque je parle des hommes, je parle singulièrement des prêtres dont je suis, dont j'observe bien souvent cette espèce de caractère vieux gars, rabougri, et habitué qu'il est à ce que sa paroisse tourne tout autour de lui, du moins le croit-il. Vous savez, c'est l'âne qui porte les reliques et qui a l'impression que c'est lui qu'on vénère, alors qu'en fait ce sont les reliques qu'il porte, que les gens vénèrent. Bien, le prêtre est parfois dans cette posture. Mais en revanche, vous avez sans doute toujours été frappé, moi avec vous, par d'authentiques disciples de Marie. Des hommes qui, vraiment, on le sait et on le voit, sont des disciples de l'Immaculée, ont été comme métamorphosés. Pourvu qu'ils en soient de vrais dévots, et non de ces sortes de tartuffes qui alignent rosaire sur rosaire et qui considèrent qu'ainsi, ils deviendront des disciples de Marie. Pas du tout. Non, de ces disciples vraiment intimes de la Vierge Marie, convaincus qu'ils ont besoin de son cœur immaculé pour progresser. Ce sont des hommes qui sont devenus capables d'écouter, capables de compatir, capables de se taire, voyez, et de quitter la seule sphère de l'efficacité pour faire primer la seule chose qui importe, le sort de leurs frères et le culte de Dieu. Et si tant de nos contemporains athées sont des brutes, si l'islam décliné au masculin spécifiquement est si dur, est-ce que ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas la chance, ces pauvres hommes, d'avoir comme modèle le cœur immaculé de Marie? Ils ne connaissent pas la Vierge et ils ne peuvent pas entrer sur les genoux dans le sein de la Vierge Marie pour recevoir cette éducation du cœur qui leur est nécessaire. Voyez donc que vous avez tout intérêt, vous, mesdames, à ce que les hommes de votre famille se consacrent au cœur immaculé de Marie, et vous, messieurs, à ce que vos épouses, vos filles, vos sœurs, vos mamans peut-être, se consacrent elles aussi au cœur immaculé de Marie, parce qu'ainsi, toute chose sera comme recréée, toute chose sera réparée, nous serons tous dans le sein de la Vierge et notre cœur battra à l'unisson du cœur immaculé de Marie qui est intimement, étroitement uni à celui de son Fils. Ainsi, nous pourrons tous, d'un même pas, dans la charité, enfin, aller vers le ciel. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.